Et maintenant, vous allez pouvoir suivre la seconde partie d'une série autour de la constitution dogmatique Dei Verbum sur la révélation divine. Elle a été présentée par le père Michel Leclerc, enregistrée dans le cadre des Jeudis du Concile au Centre diocésain du Béarn. À Pau, nous écoutons le père Michel Leclerc.
Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a fait la dernière fois, du contexte. Donc, j'avais retracé le contexte historique de cette constitution dogmatique sur la révélation divine. J'avais essayé de donner les thèmes principaux et de montrer comment les enjeux, c'était l'articulation au sein d'une unique parole de Dieu, de l'écriture et de la tradition, et même pour prendre l'ordre que nous indique la constitution, de la tradition qui nous donne l'écriture. Et de replacer ce qu'on appelait autrefois les deux sources, comme deux sources séparées, dans une unique source qui est la parole de Dieu, non pas au sens de l'écriture seule, la sola scriptura luthérienne, mais la parole de Dieu transmise dans l'Église, par tous les moyens, et on verra lesquels, on verra ce qu'on appelle les lieux de la tradition, c'est-à-dire les lieux de transmission de la parole de Dieu autres que l'écriture. Donc d'un côté la tradition et de l'autre l'écriture. Et pour ça, on était parti de la notion de révélation et c'est le premier chapitre. C'est un petit bijou bien ciselé, ce premier chapitre de Lumen Gentium. Il résume ce qui est une des matières que tous les séminaristes apprennent au séminaire. On dit le traité de la révélation. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on dit que Dieu s'est révélé? Alors, la dernière fois, je vous avais dit, puisque Dieu est amour, l'amour est diffusif de soi, il veut se donner à l'extérieur de lui-même. On en fait nous-mêmes l'expérience. Quand on aime, on veut se donner. Quand on aime, on a envie de partager ce qu'on aime. Eh bien, Dieu lui-même, qui est substantiellement amour, veut donner non pas quelque chose qu'il a ou quelque chose qu'il sait, mais ce qu'il est, c'est-à-dire lui-même. Et c'est ça la révélation. Alors, je vais prendre directement, je passe le préambule parce qu'on ne peut pas tout regarder. Le préambule est essentiellement une citation de Saint Jean, de la première épître de Saint Jean. Et le préambule redonne le contexte historique que je vous avais donné la dernière fois, c'est-à-dire à la suite du concile de Trente. D'abord, du Concile Vatican I, qui n'avait pas pu finir son travail, le Concile Vatican II entend proposer la doctrine authentique sur la révélation divine et sur sa transmission. Alors, quand ici le Concile nous dit ce qu'il veut faire, quand on nous dit proposer la doctrine authentique, authentique, c'est un terme technique, la doctrine authentique, ça veut dire c'est la doctrine sûre, c'est la doctrine qui ne sera plus contestée. C'est-à-dire qu'ici, le Concile Vatican II fait œuvre de magistère. Il s'engage, ici c'est l'Église enseignante qui nous parle en tant que le Concile qui réunit tous les évêques du monde entier, réunit tous les successeurs des apôtres, et parle au nom de l'Église, donc au nom du Christ. Voilà, ce qu'on appelle une doctrine authentique, c'est une doctrine sûre. Alors est-ce qu'il fait œuvre ? Après, on peut discuter de magistère infaillible. On peut en discuter, au moins pour certaines parties, c'est pas impossible. Ça, c'est des discussions de théologiens qui vont s'amuser à dire est-ce que là, c'est vraiment infaillible ? Là, peut-être, peut-être pas. Bon, peu importe. Si c'est du magistère authentique, c'est l'enseignement sûr de l'Église. Ça ne variera jamais. Et donc, à la suite de Trente et de Vatican. Alors, on passe au numéro 2. Premier point, placuit. Voilà, il a plu à Dieu. Donc en latin, placuit, c'est ce premier mot est important parce que il marque la liberté de Dieu. Dieu ne s'est pas révélé par nécessité. Vous voyez, si c'était par nécessité, le concile aurait commencé. Il était nécessaire que Dieu se révèle, etc. Non, il a plu à Dieu. C'est-à-dire que dans un mouvement libre de son amour, Dieu a décidé en sa souveraine liberté de, alors dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler en personne et de faire connaître les mystères de sa volonté. Premier point, s'il veut se révéler en personne, c'est que Dieu se révèle non pas d'abord en nous disant quelque chose, mais la plénitude de la révélation, comme on l'avait vu la dernière fois, c'est le Christ. C'est exactement ce que dit la phrase suivante. Comment Dieu se révèle en personne, comment il fait connaître le mystère de sa volonté, par le Christ, le Verbe fait chair. Grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père, donc, mais c'est bien par le Christ, donc le Christ, plénitude de la révélation. Le but de la révélation, il est dit à la, c'est les mots suivants, c'est la deuxième épître de Saint Pierre, pour nous rendre participants de la nature divine. Vous voyez, on a une phrase hyper resserrée, mais qui nous dit Dieu s'est révélé librement. Comment ? Par le Christ. Pourquoi ? Pour nous rendre participants de la nature divine. Alors, j'insiste sur ce dernier point, parce que c'est quelque chose qui peut être un tout petit peu oublié, ou qu'on prêche peut-être pas si souvent que ça. Pourquoi Dieu est venu à nous ? Pourquoi Dieu s'est révélé ? Pourquoi Dieu s'est incarné ? On dit classiquement, alors, pour nous sauver du péché. C'est vrai. L'incarnation est rédemptrice. Mais le but, c'est pas juste de nous arracher au péché. Le but, c'est de faire de nous des saints. Et qu'est-ce que c'est que la définition d'un saint ? C'est de faire de nous des participants de la nature divine. C'est ce qu'on appelle le dessein divin. Le but de Dieu, c'est que nous soyons participants de la nature divine. Participer à la nature divine, c'est extrêmement fort, hein, c'est l'expression de Saint-Pierre. Elle est reprise par Saint-Paul dans l'Épître aux Éphésiens, mais c'est vraiment l'expression de Saint-Pierre, et c'est très choquant. Vous voyez, si je dis ça, je discute avec un ami musulman régulièrement, qui est un gars très sympathique. Je discute avec lui depuis des années. Alors, maintenant, il est musulman chrétien un peu sur les bords quand même, mais quand je lui dis « Dieu veut nous faire participants de la nature divine », ça le choque. Pour lui, c'est presque insupportable. Parce que Dieu, pour un musulman, c'est l'inaccessible. Il est imparticipable. Et je lui dis chaque fois, tu as entièrement raison, Ali. Tu as entièrement raison. Dieu n'est pas participable. Dieu est au-delà de tout, au-delà de nous. Il est transcendant. Sauf si lui veut. Et chaque fois, je lui dis, Ali, est-ce que Dieu est tout-puissant ? Il me dit oui. Est-ce que Dieu peut vouloir que je participe à lui ? Oui. Mais vous voyez, ce n'est possible que dans ce sens-là, mais il faut reprendre conscience que devenir participant de la nature divine, c'est choquant. Et que nous, on est habitués, donc on reste tranquillement assis sur nos chaises, mais qu'on devrait sauter de joie et lever les mains pour louer. Ça devrait nous remplir de joie. Et si Dieu veut nous rendre participants de sa nature, c'est librement. Et il le fait par le moyen de la révélation. Ce qui nous montre bien que la révélation n'a pas pour but juste de nous informer de quelque chose, mais de nous transformer. Donc vous voyez, je peux vous révéler les codes de ma carte bleue, pour autant que je m'en souvienne. Voilà, je vous transmets une information. Vous la connaissez, ça ne vous change pas. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que si Dieu se révèle, ça va changer notre nature. Si je vous révèle des tas de choses, même si je vous révèle les numéros du loto au prochain tirage, ça ne changera pas votre nature. Ça va changer peut-être votre train de vie, mais pas votre nature. Quand Dieu nous dit qui il est, c'est pour que nous soyons transformés dans notre nature. Donc la révélation a un but de transformation et de divinisation. Ce n'est pas juste une information, même si elle passe par la révélation de doctrine. Quand on dit doctrine, c'est quelque chose qui est enseigné. Dieu nous enseigne pour que nous soyons transformés. On va voir, ce sera le numéro sur la foi, c'est le numéro 5 qui nous explique bien que justement, on ne peut recevoir la révélation qu'en nous transformant nous-mêmes par la foi. Donc, voilà, phrase importante hein, au début, vous imaginez, pour rédiger ce genre de phrase qui qui rassemble toute la foi chrétienne, comment il a fallu travailler. Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Voilà, on revient sur l'idée de Dieu s'adresse à nous, il nous parle, pas seulement pour nous transmettre un message. C'est là où le mot « message » est ambigu. Quand on parle du message de l'Évangile, c'est pas une expression évangélique, ou des valeurs de l'Évangile. Ou, ouais. Dieu n'est pas venu nous transmettre un message. Il est venu se transmettre lui-même, comme dit le mot ici, pour nous admettre à partager sa vie. Donc il ne nous a pas transmis par la révélation seulement un message, mais sa vie. Donc dans la révélation, il y a la vie divine. Donc il vient pour nous inviter et pour nous admettre à partager sa propre vie. Mais pour ça, il passe comment ? Il s'adresse à nous, donc il nous parle dans l'Ancien Testament. Tant de fois il s'est adressé à nous par les prophètes. Il s'entretient avec nous et il s'adresse à nous comme à des amis. Ce qui dit bien que la révélation ne s'adresse pas qu'à notre intelligence, mais à toute notre personne. Elle est une invitation à l'amitié avec Dieu. Et donc ici, on a trois mots, hein, participant à la nature divine, ami, amitié, et partager sa propre vie, qui désigne la même réalité, qui est tout simplement le fait d'être en état de grâce, c'est-à-dire d'avoir en nous la vie divine, ou d'être vis-à-vis de Dieu comme des amis. Il manquerait ici l'aspect de filiation, d'être comme des enfants vis-à-vis de Dieu. Pareil, économie de la révélation. Alors, j'imagine que le mot économie, là, il chatouille. Qu'est-ce que c'est que l'économie de la révélation ? Ce n'est pas le fait que Dieu a été radin sur la révélation, ou économe de la révélation, c'est un mot qui vient des pères de l'Église. C'est le mot grec économie, c'est l'organisation. L'économie, c'est l'organisation d'une maison. D'ailleurs, vous voyez, quand on l'économie, nomos, c'est l'organisation, et oikos, c'est la maison en grec. Donc l'économie, c'est la, on va dire, la loi de la maison, les lois de la maison. Et quand les pères de l'Église parlent de l'économie divine ou de l'économie de la révélation, ils disent la manière dont Dieu a agi avec nous. Comment il s'y est pris avec nous. Donc, pareille économie de la révélation, donc cette organisation de Dieu, comprend des actions, des paroles, intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut, donc dès l'Ancien Testament, attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqués par les paroles. Tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Et donc ici, première définition du Concile, c'est une question qui a été disputée entre les théologiens, c'est est-ce que Dieu se révèle seulement par des mots ou aussi par des actes ? Eh bien ici, très clairement dit, Dieu se révèle dans tous ses actes et dans tous ses mots. Si bien que pour comprendre ses mots, il faut regarder ses actes, et pour comprendre ses actes, il faut regarder ses mots. C'est exactement ce que nous dit le Concile. Donc c'est quelque chose de vraiment important, parce que ça nous permettra par exemple de lire l'Évangile, ou d'ailleurs tout livre inspiré, de les lire en regardant non seulement les mots que Dieu dit, mais les actes qu'il pose, et même, on dira un peu après, en latin, acta et passa, ce que Dieu fait, et aussi ce qu'il subit, ce qu'il veut pâtir, sa passion, par exemple, révèle quelque chose de Dieu. Donc quand Jésus se laisse crucifier, il nous révèle quelque chose du mystère de Dieu. Il nous révèle son cœur. Voilà. Donc vous voyez, la révélation, elle va jusque-là. Quand Dieu pardonne au peuple dans l'Ancien Testament, il nous révèle sa miséricorde. Quand Dieu revient vers le peuple et nous dit « Je veux nouer une alliance avec toi », il nous révèle son dessein. Il agit comme un ami, il agit comme un père. Donc Dieu se révèle à travers ses actes et ses paroles, et les uns éclairent les autres. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Voilà, très important, le Christ est la plénitude de la révélation. Ce qui va nous permettre, on va y revenir dans le numéro 4, hein, mais on dit généralement que la révélation, au sens strict, est achevée à la mort du dernier apôtre. Pourquoi ? D'où ça sort ? Vous voyez, ça serait ce qu'on dit, voilà, après c'est fini, le robinet est coupé. Non, parce que le Christ est la plénitude de la révélation. Donc les apôtres qui l'ont connu avaient encore des choses à nous dire qu'ils avaient reçues du Christ. À partir de la mort du dernier apôtre, la révélation est close au sens où nous avons tout. Il ne nous manque plus rien. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des révélations privées ? Par exemple, des apparitions. Voilà, quand Marie apparaît à Bernadette à Lourdes, elle lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Est-ce qu'elle ne lui révèle pas quelque chose ? Alors, une révélation publique, privée, c'est différent de la révélation, avec un grand R, souvent, je ne sais pas si on a mis une majuscule ici, oui, on met une majuscule. Ce n'est pas une révélation divine. Une révélation privée, ce n'est que l'application à une période particulière, un cas particulier de ce que Dieu a déjà révélé. Il ne peut pas y avoir de nouveauté dans une révélation privée, une apparition. Si Marie était venue et avait dit, voilà, je viens vous révéler, je ne sais pas, qu'il y a une quatrième personne dans la Trinité, bah, ça aurait été très simple. L'Église aurait tout de suite dit, bah, on sait que c'est faux. Ça vient du diable ou de l'illusion ou de l'imagination. Le premier critère pour reconnaître une apparition, c'est est-ce qu'elle est conforme à la révélation. Et donc quand Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception », on dit « Oui, c'est vrai, parce que c'est déjà dans la révélation, c'est déjà dans l'Écriture et la tradition. » Donc effectivement, Marie peut dire à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». Ah voilà, j'attendais que quelqu'un me le dise, je me disais « Est-ce qu'ils suivent ou pas ?» Très bien. Et donc, effectivement, on va voir que la plénitude de la révélation est découverte progressivement dans l'Église, donc elle gagne en clarté, mais pas en extension. Quand il y a un nouveau dogme, le magistère ne trouvera rien de nouveau. Par contre, il va expliciter davantage. On peut prendre l'exemple... Tiens, vous voyez, il y a eu récemment un document marial du dicastère pour la doctrine de la foi, qui n'est pas un document magistériel. Actuellement, il y a des recherches sur la doctrine mariale. Est-ce qu'on peut dire que Marie est co-rédemptrice ? Il y a des théologiens qui disaient que oui. Là, le dicastère nous dit il vaut mieux pas dire comme ça. Mais il dit Marie a été associée d'une manière unique à la rédemption. Mais si on dit co-rédemptrice, dans le langage contemporain, on va avoir l'impression que Marie est à côté de Jésus comme une deuxième rédemptrice. Donc il vaut mieux éviter. Donc vous voyez, on est en train de chercher à dire quelque chose qu'on sait depuis quand ? Depuis l'Évangile, Marie se tenait debout au pied de la croix. Dans ce verset, Marie se tenait au pied de la croix, il y a le rôle de Marie dans la rédemption. Après, il y a la tradition, c'est-à-dire ce que les chrétiens ont toujours cru depuis les apôtres. Les apôtres savaient que Marie avait eu un rôle dans la rédemption. Et donc, ils l'ont transmis. Et puis, ça on verra au chapitre 2, la tradition, c'est cette transmission qui, chaque fois, essaye de creuser. Et donc, comment on le dit, ce rôle-là ? Alors, au Moyen-Âge, il y a un théologien qui, un jour, a dit « Marie est rédemptrice ». Alors, il y a le théologien qui a dit « Non, ça, tu ne peux pas dire ça. Un seul Seigneur, un seul rédempteur. » Donc, on va dire « Marie est co-rédemptrice ». Pour dire qu'elle n'est pas rédemptrice. Là, aujourd'hui, on dit, attention, parce que quand vous dites Marie co-rédemptrice, le mot n'est pas bien choisi, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est posée à côté. Donc, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, on aura le bon terme pour dire, pour l'instant, on dit, c'est dans l'Omen Gentium, Marie est associée d'une manière incomparable au Rédempteur. Et vous voyez, le peuple chrétien, dans sa foi, transmet cette doctrine, les théologiens bossent, le magistère essaye de délimiter, hein, mettre des limites. Je vous avais expliqué la dernière fois ce que c'est que de définir, c'est de mettre des limites, de dire ça on peut pas dire, ça on peut dire. Et on se transmet et donc on éclaire petit à petit la plénitude de la révélation qui était dans le Christ. On va le revoir avec la notion de transmission de la révélation divine. C'est le... Je voulais quand même juste commenter que le Christ ici est défini comme médiateur et plénitude de la révélation. Donc c'est bien les deux buts de l'incarnation, la médiation rédemptrice, il nous rachète et il nous révèle. Et c'est quelque chose qui est vraiment important quand on contemple le Christ, on se dit je contemple tout ce que Dieu de toute éternité veut me dire et me transmettre, c'est le Christ. Voilà, c'est, le Christ est objet de contemplation. Vous voyez, toute la spiritualité du cœur de Jésus, c'est une spiritualité de contempler les mystères qui sont dans le cœur de Jésus, le cœur humain de Jésus, mais qui est uni à sa divinité. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus ? La plénitude de la révélation. Ça, le pape François l'a très bien écrit dans son encyclique sur le Sacré-Cœur. Dixit nos et sur le Sacré-Cœur. Alors, petit paragraphe sur l'Ancien Testament, c'est le numéro 3. Dieu qui crée et conserve toutes choses par le Verbe donne aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Premier degré de la révélation, c'est ce qu'on appelle parfois la révélation primitive ou la révélation primordiale, c'est la création. Avant même de nous parler par les prophètes, Dieu se révèle comment ? En nous créant. En nous créant, il nous dit quelque chose de lui. Il nous donne, dans les choses créées, un témoignage incessant sur lui-même. Et donc, vous voyez, ça c'est, on dit parfois, c'est la révélation naturelle. C'est Vatican I avait insisté, du coup, sur le fait que tout homme peut arriver à l'existence de Dieu par sa seule raison. Il n'y a pas besoin que Dieu nous dise qu'il existe. Quelqu'un qui contemple la création, c'est dans l'Épître aux Romains, saint Paul le dit explicitement, tout homme, par les seules forces de son intelligence, peut arriver à dire « il y a un Dieu créateur et bon ». Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que notre intelligence, elle est polluée par nos péchés, par nos mauvais penchants, par nos blessures, elle est polluée aussi par le monde. Mais il y a une révélation primordiale, ce qui fait que on trouve l'idée d'un Dieu unique dans des religions qui n'ont pas connu la révélation divine. Y compris, alors c'est très frappant, dans les religions ancestrales africaines. J'ai pas mal d'amis africains avec qui on a parlé de ces questions. Ils nous disent, mais vous les Européens, vous ne comprenez pas la religion ancestrale africaine parce que vous êtes persuadés que ce qu'on appelle nos dieux, ou avec un X au pluriel, c'est l'équivalent de Dieu. Mais nous savons très bien qu'il y a un Dieu unique. Ils le savent très bien, mais pour les Africains, il est au-delà et inconnaissable, il n'intervient pas. Les dieux sont des esprits. C'est des divinités un peu subalternes. Mais le Dieu créateur, il est au-delà de tout. Il est tellement sacré qu'on en parle à peine. Mais ils connaissent ce Dieu qui est au-delà de tout. Simplement, ils se disent, il ne s'occupe pas de nous. Il ne s'est pas révélé, parce qu'ils ne connaissent pas la révélation. Mais leur raison, la révélation primordiale, leur a transmis ça. De même, c'est assez frappant. Il y a des anthropologues qui ont pas mal réfléchi là-dessus. Dans plusieurs religions païennes, on trouve l'idée qu'un jour, par une femme ou par une vierge, viendrait un sauveur. D'où vient cette idée, en Égypte ? Alors, est-ce que c'est des contacts avec le peuple juif ? Mais souvent, ça remonte bien au-delà des prophètes. Et donc, on dit que c'est la proto-révélation. Ce que Dieu dit dans la Genèse, il promet un sauveur. Et bien, cette mémoire d'une toute première révélation a pu se transmettre dans des sagesses religieuses païennes. Ça peut être la source de cette attente un peu diffuse dans toute l'humanité d'un sauveur. Alors, pas partout, hein, il y a Des religions, le bouddhisme par exemple, n'attend pas un sauveur et n'a pas l'idée d'un dieu créateur. En revanche, dans beaucoup de formes de chamanisme, voire d'hindouisme, il y a quelque chose qui affleure. Ben, c'est un vague souvenir de la proto-révélation, de la révélation primordiale. Alors, il y a pas mal de délires là-dessus, un peu gnostiques, voilà, tout ce que vous trouvez autour de René Guénon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est un penseur d'origine chrétienne, qui est passé par l'islam, qui est passé par le soufisme, par toutes les traditions ésotériques, délire un petit peu là-dessus. Mais il faut reconnaître qu'il y a bien une espérance qui se lève de toute l'humanité d'un sauveur. Et elle vient de la première révélation qui est la création. Donc premier degré, révélation naturelle, la création. Mais, deuxième degré, voulant de plus ouvrir la voie du salut d'en haut, il s'est manifesté aussi lui-même. Le mot est très important. Il s'est manifesté aussi lui-même. Et dès l'origine, à nos premiers parents. Donc s'il s'est manifesté lui-même, c'est que c'est une décision libre. C'est venu de lui, gratuite. Nous n'avions pas droit à ça. C'est un cadeau qu'il nous fait. C'était pas, on ne peut pas dire au Seigneur, j'ai droit que tu te manifestes à moi. Non, c'est un cadeau gratuit de son amour. Et c'est une manifestation. On trouve souvent chez Ratzinger le terme de « auto-manifester ». C'est une manifestation de soi. Donc déjà, il révèle ce qu'il est. Donc après la chute, par la promesse d'une rédemption, Genèse 3,15, il les releva dans l'espérance du salut. Ça, je vous en parlais à l'instant, hein, donc de la première révélation, la proto-révélation, révélation primordiale. Il prit un soin constant du genre humain pour donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la constance dans le bien, recherchaient le salut. Première grande révélation, au temps fixé, il appela, encore il a l'initiative, il appela Abraham pour faire de lui un grand peuple. Après les patriarches, il forma ce peuple par l'intermédiaire de Moïse et par les prophètes pour qu'ils le reconnaissent comme le seul Dieu vivant et vrai, Père prévoyant et juste juge, et qu'ils attendent le Sauveur promis. Et donc ici, on a un résumé de tout l'Ancien Testament, en deux lignes. Et qui aboutit à quoi ? Un seul Dieu, vivant, ça ne va pas de soi dans le monde antique, hein, que Dieu soit vivant, et vrai. Ça c'est Ratzinger qui aimait beaucoup faire remarquer que dans le monde de l'Antiquité, que Dieu se dise l'unique vrai Dieu, c'était tout à fait singulier. Chez les Romains, la question de Dieu n'est pas une question de vérité. Chacun choisit son Dieu, à Rome on choisit son Dieu, après on demande d'être en cohérence avec ce qu'on a choisi. C'est plus une question d'identité de choisir son Dieu. Il y a le culte de Mithra, si on est romain, on honore les dieux romains. Mais les chrétiens, à la suite du peuple juif, disent « Mais nous, on ne vous dit pas c'est notre Dieu, c'est le Dieu de notre nation, c'est l'unique vrai Dieu. Les autres sont faux. » Les autres, les païens disent « Nous, notre Dieu, c'est un tel, et il est plus fort que votre Dieu. » Ne disent pas « Notre Dieu est vrai. » La notion de vérité appliquée à Dieu, c'est une spécificité de la révélation. Et en fait, on comprend, si Dieu ne se révèle pas pour dire ben, « En fait, le Créateur, c'est moi, et les autres, ce sont des idoles », il n'y a pas de raison de dire « Mon Dieu est vrai. » On dit simplement « Mon Dieu est plus fort que le vôtre. » Et donc, la notion de vérité appliquée en religion, c'est une notion chrétienne, enfin judéo-chrétienne. Donc, Dieu vivant, vrai, Père, voilà, on le sait depuis l'Ancien Testament, prévoyant et juste juge, et attente du Sauveur. On aurait pu mettre miséricordieux, parce que vraiment, il nous lit déjà dans l'Ancien Testament. On dira, si j'étais au Concile, je me lèverais et je dirais, Père miséricordieux, je ferais ce qu'on appelle un votum, c'est-à-dire une demande d'ajout. Donc on en est là à la fin de l'Ancien Testament. Et numéro 4, le Christ, plénitude personnelle de la révélation. Alors il y a cette citation, d'abord, « Après avoir à bien des reprises de bien des manières par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils, citation d'Hébreux, le tout début de l'Épître aux Hébreux, qui inscrit très bien le Christ dans la continuité de tout l'Ancien Testament. Alors, on ne sait pas trop qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est probablement quelqu'un qui est un prêtre ou d'une famille sacerdotale de l'Ancien Testament. Et donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les Écritures. Et donc quand il dit, après avoir à plusieurs reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont des derniers, nous a parlé par le Fils, l'auteur de l'Épître aux Hébreux assume complètement l'Ancien Testament et dit, le Christ vient et nous redit tout ce qu'ont dit les prophètes, mais il met le point final, il donne le sens final à tout ce qui nous a été dit. Donc il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous les hommes, pour qu'il demeura parmi eux et leur fit connaître les profondeurs de Dieu. Donc c'est vraiment la nouveauté de l'incarnation, c'est que les profondeurs de Dieu, le mystère de Dieu, nous est révélé. Donc il prononce les paroles de Dieu, je passe un tout petit peu et j'arrive en dessous. C'est donc lui. Le voir, c'est voir le Père. Hein. Souvenez-vous de Philippe, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe, qui me voit, voit le Père, dans Jean 14. C'est donc lui qui, par sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, achève en l'accomplissant la révélation. Alors, on va revenir après, sur la dernière phrase après. Ici, je voudrais juste relever que donc, la révélation du Christ, c'est ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il subit, et l'envoi du Saint-Esprit, qui est encore une œuvre du Christ. Vous voyez, il n'y a pas la révélation du Père, la révélation du Fils, puis la révélation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à nous aujourd'hui, c'est encore le Christ qui achève sa révélation. Voilà, c'est encore lui qui se dit. Et donc, il accomplit la révélation, la confirme en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et pour nous ressusciter par la vie éternelle. Ici, le mot important, c'est attester. Attester, c'est quoi ? C'est témoigner de manière ferme. Devant un tribunal, on atteste, le terme technique c'est on teste, on fait œuvre de témoin. Vous avez parfois ça dans les testaments, nous, maître machin de l'étude notariale de X, avons reçu Madame X venue tester devant nous, c'est-à-dire faire une œuvre de vérité. Voilà, le Christ est venu attester quelque chose de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le témoin. Or, un témoin, c'est ce qu'on va voir au chapitre suivant, au paragraphe suivant, il demande quoi ? Si vous avez un témoin qui vient témoigner à la barre au procès des attentats du Bataclan, un témoin, qu'est-ce qu'on lui demande ? D'être crédible. Donc on va faire une petite enquête de moralité sur le témoin. Et on le reçoit quand il est crédible. S'il est crédible, un témoin, il est cru. Il demande la foi. Il demande qu'on le croit. La réaction devant un témoignage, c'est la croyance. Si je vous dis, tout à l'heure, j'ai traversé la rue et j'ai vu l'abbé de Mesmé passer dans une voiture rose, je fais œuvre de témoignage. Vous pouvez me croire ou pas ? Mon témoignage, je l'avoue, sous cette forme, est peu crédible. Mais si je vous dis « je l'ai vu rentrer vers Saint-Martin », vous allez me croire. Parce que, a priori, je n'ai pas de raison de vous mentir. Mais ici, la véritable nouveauté, c'est que nous avons un témoin divin. Et donc, si vous me croyez, c'est parce que moi je suis crédible humainement, vous avez la faiblesse de croire que parce que j'ai une robe blanche, je suis crédible humainement. Et d'a priori, les curés sont plutôt crédibles. C'est pas trop des affabulateurs. Voilà. Mais un témoin divin, il demande d'être cru comme divin. Et ça, cette croyance, croire un témoin divin, ça s'appelle la foi. Et c'est le numéro suivant, accueil et révélation de la foi divine. À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi. Alors là, c'est une allusion à toute l'œuvre de Vatican I, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage, ça doit être une citation de Vatican I, complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle. Concile Vatican I, De Fide Catholica, donc c'est la grande constitution dogmatique de Vatican I sur la foi. J'aimerais m'arrêter un court instant là-dessus. Je vous ferai remarquer qu'on fait œuvre de foi tout le temps. Œuvre de foi humaine. Quand je conduis, je fais œuvre de foi humaine parce que je crois que celui qui arrive en face, il va s'arrêter au feu rouge. Je crois que celui qui a construit la voiture l'a bien construite et quand je vais appuyer sur le frein, elle va s'arrêter. Je crois que l'airbag va se déclencher en cas de problème. Vous voyez tous les actes de foi humaine que je fais. Tout ça pourquoi? Parce que le vendeur m'a dit c'est une Dacia, elle est fiable. Quand l'abbé m'a appelé tout à l'heure, je l'ai cru en me disant que vous étiez là. J'aurais pu dire non, arrête, c'est bon, tu me fais une blague, ça va. Vous voyez, quand vous avez un coup de téléphone et qu'on vous dit c'est un tel, ça pourrait être une blague, ça pourrait être une arnaque. Vous faites, alors vous vérifiez, alors maintenant on peut voir le numéro de téléphone qui s'affiche. Mais vous voyez, moi j'ai des copains qui m'ont fait l'autre jour une blague, ils m'ont fait croire que c'était. Ils m'appelaient avec un accent italien, il y avait toute une histoire, je comprenais rien. Bon. J'ai marché comme un niais, j'ai marché. Mais vous voyez, on fait tout le temps œuvre de foi. La foi, c'est pas. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement courant dans notre vie de croire quelqu'un. Quand notre professeur d'histoire nous a raconté l'histoire de Charlemagne, nous l'avons cru. Est-ce que quelqu'un vous a démontré l'existence de Charlemagne? Jamais personne. Vous croyez l'existence de Charlemagne. Vous croyez l'existence de César. Vous croyez l'existence... Moi, je crois l'existence de Gaulle. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je suis né après sa mort. C'est une tradition orale, c'est-à-dire j'ai des témoins qui me disent que Charlemagne a existé. J'ai une tradition écrite, j'ai des textes qui me disent que Charlemagne a existé. Je peux faire une enquête historique, et je me dirais, ok, les témoins sont plutôt crédibles. Eh bien, ce que je fais pour Charlemagne, je vais faire la même chose quand Dieu me parle de lui. Sauf qu'ici, l'autorité du témoin est une autorité divine, et donc que la foi que j'accorde n'est pas une foi humaine, mais une foi divine. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre ce que c'est que la foi. C'est d'abord que si c'est Dieu qui le dit, ben c'est que c'est vrai. Voilà, je crois un témoin divin. Mais quand je crois un témoin divin, je ne fais pas que croire ce qu'il me dit, je crois le témoin. Je lui dis, je te crois. Vous voyez, d'ailleurs, si demain, vous venez me voir et vous me dites, j'ai quelque chose de très grave à vous dire, vous me le dites, je peux vous dire, je crois ce que vous me dites, mais je peux aussi vous dire, je te crois, toi, tu es crédible. Et donc, dans la foi, il y a ces deux aspects. Il y a l'obéissance de l'intelligence, hein, c'est ce que dit le texte, l'obéissance de la foi par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle. Donc il y a l'acte de l'intelligence, je reçois ce que Dieu me dit, mais je m'en remets à lui, je le crois. Donc il y a un acte à la fois d'adhésion à la personne du Christ et en même temps de réception de ce qu'il me dit. Ça, c'est vraiment important. Je pense que ce serait important, même pastoralement, quand on fait du caté, ou quand on instruit les catéchumènes, de leur redire que la foi, c'est pas une illumination. Voilà, j'ai la foi tout d'un coup parce que je le sens. Non, c'est parce que Dieu m'a parlé. C'est ça. Je le crois parce qu'il m'a parlé. J'ai un ami prêtre qui s'est converti. Il vient d'une famille complètement athée. C'est devenu un grand théologien. Et il faisait des études de physique nucléaire ou quantique, je ne sais pas. Enfin, c'est un physicien assez avancé. Et comme c'est un esprit assez carré et cartésien, il s'est posé la question de la foi. Il a dit, je vais faire une enquête. Il s'est dit, est-ce que Jésus est crédible? Alors, est-ce que Jésus a existé? Oui, il y a manifestement toutes les chances que... Enfin, historiquement, l'existence de Jésus est certaine. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Alors, il a lu les évangiles. Bon. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il nous a donné des signes? Ah oui, il nous a donné des signes, c'est les miracles. Mais est-ce que les miracles, c'est crédible? Oui, c'est quand même raconté par pas mal de monde. Si ça n'avait pas été crédible, ça aurait été contesté très vite. Or, les miracles n'ont pas été... Et donc, tout tranquillement, il a fait son enquête. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, je crois que Jésus est crédible. Là, il n'avait pas encore la foi. Et là, il s'est mis à genoux, il s'est dit, Jésus, je crois en toi. Et là, il fait un pas de plus. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin d'un miracle pour avoir la foi, il n'y a pas besoin d'une illumination. C'est « je crois Dieu qui me parle ». Je crois sur l'autorité du témoin divin. Alors, il faut la grâce. Pour faire le dernier pas, il faut la grâce. Mais en soi, la foi, c'est vraiment important de montrer que ce n'est pas d'abord un ressenti. Même si, quand on fait l'acte de foi, ça va nous transformer. Mais je n'ai pas besoin d'attendre d'être remué ou d'avoir une illumination ou un miracle personnel pour croire. D'ailleurs, on va voir après... le rôle de la grâce. Pour exister, cette foi requiert la grâce prévenante, donc une grâce de Dieu qui est avant l'acte de foi, qui va me conduire vers l'acte de foi, et adjuvante, c'est des termes techniques, adjuvante qui vient m'aider à poser l'acte de foi, ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit qui touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'Esprit et donne à tous la joie de consentir et de croire à la vérité. Afin de rendre toujours plus profonde l'intelligence de cette révélation, l'on ne cesse par ses dons de rendre la foi plus parfaite. Alors, petite phrase importante, c'est que la foi, il y a le premier acte de foi, qui souvent est fait dès l'enfance, mais notre foi est appelée à progresser, et quand on progresse dans la foi, qu'est-ce qu'on fait? On rend plus profonde l'intelligence de la révélation. Donc, mon premier acte de foi, quand j'étais enfant, que j'avais l'âge, vous savez, un petit âge de raison, et qu'on dit, si Jésus me l'a dit, c'est vrai, je fais un acte de foi. J'adhère à toute la révélation, mais sans savoir. Je prends le paquet, comme un enfant qui dit, si papa l'a dit, c'est que c'est vrai. Parce que mon papa, c'est le plus fort. C'est un acte de foi humaine. Hein. Si maman l'a dit, c'est peut-être moins vrai. Hein, souvent, les enfants ne sont pas justes pour ça. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que la parole du Père est toujours plus crédible que la parole d'une mère. C'est mystérieux, c'est juste, mais c'est comme ça. Ça s'explique psychologiquement. Et donc, ici, donc, comme enfant, je dis oui à Dieu, mais l'intelligence de la révélation, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a dans le paquet, petit à petit éclairer tout ce qu'il y a et que je savais confusément, ça c'est ce que je fais jour après jour pour rendre ma foi plus parfaite. C'est ce que je fais au catéchisme. Vous voyez, au catéchisme, au sens strict, le catéchisme s'adresse à des enfants qui ont déjà fait un acte de foi, il s'adresse à des croyants. Alors, sinon, ce n'est pas tout à fait du catéchisme, c'est un éveil à la foi. Mais le catéchisme s'adresse à des enfants qui disent « je crois et je veux comprendre ce que je crois ». Et ce que nous faisons là, nous faisons œuvre d'intelligence de la foi. Donc, nous creusons notre acte de foi. Nous ne faisons pas de la théologie universitaire. La théologie universitaire dit on fait abstraction de l'acte de foi. On se place, on étudie une doctrine. Tiens, saint Thomas d'Aquin a enseigné que, pourquoi il a enseigné ça, comment il a fait, comment il se place par rapport à Bonaventure, par rapport à ses successeurs, etc. On fait de l'histoire des idées. Ici, en théologie catholique ou ce qu'on fait dans ce genre de rencontre, on creuse notre acte de foi. Donc nous sommes en train de donner de la lumière et de l'intelligence à cet acte par lequel nous avons fait hommage de tout notre être à Dieu. Donc, vous voyez, c'est juste pour replacer au bon niveau ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de se dire... On se fait plaisir en comprenant un texte du Concile. Quand on cherche à creuser un texte du Concile, on creuse notre acte de foi, donc on fait un acte théologal, un acte surnaturel. Allez, je fais le dernier, comme ça on aura fini la feuille verte. Révélation divine et connaissance naturelle de Dieu. Donc ici, on va reparler de Vatican I, c'est ça. On va parler du défilé de Vatican I, la note 6 et 7. Alors, par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, c'est ce qu'on a vu, ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté. Qu'est-ce que c'est qu'un décret éternel ? C'est une volonté divine. C'est un terme technique aussi, théologique, on dit les décrets de la volonté divine, c'est une décision de Dieu. Concernant le salut des hommes, à savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. Toujours la même idée, nous faire participants de la nature divine. Le Saint Concile reconnaît que, citation de Romains 1, « Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et vous voyez, c'est vraiment important de le redire, parce que sinon, ça voudrait dire que la révélation divine viendrait se plaquer comme une lumière sur une obscurité. Et ici, ce que nous révèle Saint Paul, puisque Saint Paul fait œuvre de révélation en nous disant ça, il nous dit, non, la révélation divine, elle est une lumière qui prolonge et dépasse, mais qui prolonge la lumière de la raison. Donc la révélation divine n'est pas absurde. C'est très important. Elle est pas rationnelle au sens où elle est seulement rationnelle. Mais elle n'est pas absurde. Il n'est pas absurde de croire que Dieu a pu se révéler. Pourquoi ? Parce que je peux savoir par ma raison qu'il y a un Dieu, qu'il est tout-puissant, et donc effectivement, il peut se révéler s'il le veut. Donc je ne peux pas prouver que Dieu devait se révéler, puisqu'il le fait librement. Mais je peux prouver qu'il pouvait se révéler. Et donc, cette révélation ne vient pas m'écraser. Vous voyez, il y aurait l'humanité, ma vie humaine, puis tout d'un coup, paf, la révélation, qui serait complètement différente. Non, elle vient prolonger ce que je peux savoir par ma nature. Le dépasser, mais le prolonger. C'est pour ça qu'on dit que la grâce ne vient pas supprimer la nature, mais la surélever. Donc, c'est important. Alors, ça a des conséquences aussi assez importantes dans la vie humaine. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, c'est ce que tous les hommes pourraient connaître par leur seule raison sur le bien et le mal. Par exemple, qu'on ne doit pas tuer un innocent, c'est assez accessible à tout le monde. Vous trouverez rarement, très rarement, quelqu'un qui dit « moi je pense qu'on peut tuer un innocent ». Après, la loi naturelle, elle va beaucoup plus loin, mais plus on va dans les détails, plus c'est difficile à comprendre par la seule raison humaine. Mais s'il y a un Dieu, qu'il y ait un Dieu et qu'il faille l'honorer, ça fait partie de la loi naturelle. Ça pourrait avoir des conséquences. Vous voyez, c'est ce qui permet, par exemple, dans la Constitution américaine, de tout mettre sous le regard de Dieu. Parce que les Américains considèrent que tout homme qui creuse un peu avec sa jugeote, sait qu'il y a un Dieu. Et donc, aux États-Unis, on commence les sessions du Parlement par une prière. Alors après, on fait venir soit un pasteur protestant, soit un pasteur évangélique, soit un pasteur presbytérien, soit un prêtre catholique. Mais on commence pas. Ça ne. Aux États-Unis, on fait une prière de bénédiction à table dans l'entreprise. Ça va de soi, parce que on considère que qu'il y ait un Dieu, c'est accessible à tous. En France, on a une culture très différente où justement ce passage là de Romains 1, il n'est pas du tout accepté. Notre conception de la laïcité, la laïcité à la française dont nous avons hérité, c'est une forme d'athéisme pratique dans la vie publique. Mais cet athéisme, les papes y ont souvent insisté, n'est pas juste parce qu'il contrevient à la raison humaine. La raison humaine devrait faire une place à un Dieu unique. Lequel, ça, après il faut encore qu'elle accepte la révélation. Ça, c'est une deuxième étape. Je finis juste avec la dernière phrase. Le Saint-Concile donc enseigne qu'on doit attribuer à la révélation, et là il recite Vatican I, le fait que les choses qui dans l'ordre divin ne sont pas de soi inaccessibles à la raison humaine peuvent aussi dans la condition présente du genre humain être connues de tous facilement avec une ferme certitude et sans aucun mélange d'erreur. On peut connaître Dieu par sa raison, sauf que c'est difficile. Mais grâce à la révélation, ce qu'on pourrait connaître par la raison, par la révélation, on va le connaître plus facilement, de manière plus certaine et sans mélange d'erreurs. Voilà, ça c'est l'idée classique de Vatican I, reprise par Vatican II. C'est-à-dire que Dieu peut nous révéler quelque chose que nous aurions pu connaître par notre seule raison. Pourquoi ? Ben pour qu'on aille plus vite. C'est un peu comme si un professeur de mathématiques nous disait « Vous pouvez trouver la solution par vous-même en résolvant l'équation ». Mais pour avoir la solution plus rapidement, plus facilement et sans erreur, je vais vous la dire. Et donc Dieu peut nous révéler des choses accessibles à la raison, mais il passe par la révélation pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Parce que s'il fallait que chacun de nous, par sa propre jugeote, arrive à découvrir Dieu, qui il est, comment il est, on serait un petit peu en galère. Donc Dieu, pour nous faciliter la tâche, nous le révèle. Voilà, donc premier chapitre sur la révélation. Chapitre important, un peu difficile, un peu théorique, mais c'est vraiment important parce que ça remet la base. C'est, à mon avis, ça c'est vraiment une opinion personnelle, c'est pas le Concile qui le dit, c'est souvent ce chapitre sur la révélation qui est un trou dans nos catéchèses. C'est très bien développé dans le catéchisme de l'Église catholique. Il y a un très beau, c'est la première partie. Mais souvent, on parle de Jésus, mais sans nous parler de la révélation. Alors c'est bien de parler de Jésus, mais c'est important de nous dire qu'il est lui la révélation de Dieu. Ouais, donc qu'est-ce que je suis devant Dieu qui se révèle? Je suis un homme croyant. Voilà, c'est la révélation. Et pour finir, je vous dis juste ça. Benoît XVI, pendant l'année de la foi, avait. J'aimais beaucoup la manière dont il disait. Il disait Dieu fait irruption dans nos vies. Et notre réponse à l'irruption de Dieu, qui est donc. L'irruption de Dieu, c'est la révélation, c'est notre foi. Et Dieu arrive, il nous parle, il se révèle, et notre réponse, c'est la foi. Qui est non seulement je crois ce qu'il me dit, mais j'embrasse, je fais confiance à la personne, c'est-à-dire au Christ, qui me dit quelque chose de Dieu. Voilà pour la révélation. On a fait en une heure le traité de la révélation, ça se fait en 12 heures au séminaire. C'est un des passages difficiles. Alors, du document et puis même vraiment de la théologie. Mais c'est capital. Parce que sinon, on ne comprend plus ce qu'est la foi. Et on fait de la foi justement une forme d'immanentisme, quelque chose qui viendrait de moi. La foi, c'est d'abord l'irruption de Dieu qui se révèle. C'est ma réponse à l'irruption de Dieu qui se révèle.
Vous venez de suivre la seconde partie des jeudis du Concile autour de la constitution dogmatique Dei Verbum. Présenté par le père Michel Leclerc, enregistrement réalisé le 13 novembre 2025 au Centre diocésain du Béarn à Pau.